On va tout de suite retrouver Michel. Voilà, Michel Favre. Est-ce que Michel, vous m'entendez? Moi, j'ai l'écran, je vous vois. Là, j'ai le plaisir de, d'être chez vous, Michel. Tout va bien? Tout se passe bien?
Pas de problème, bonjour.
Voilà, juste quelques petits réglages. Vous êtes enroué ou ce sont les réglages? Mais ça va arriver, on vous entend bien.
Je pense que je vais couper mon téléphone aussi, ce serait peut-être pas plus mal.
Voilà, là on vous entend bien. Mais écoutez, déjà, Michel, avant de, que vous nous présentiez votre nouvelle chronique, tout va bien, donc confiné, mais toujours impliqué. Vous avez bien travaillé sur la chronique, la passion, le travail, mais en quelques mots.
Bah, si on parle de manière un peu personnelle, je ne peux pas dire que je dois tellement me plaindre, parce que moi je suis confiné sur un domaine de presque 11 hectares avec des bois, un étang, donc c'est plutôt tranquille comme un confinement pour moi, à part qu'on ne voit pas grand monde. Pour l'association Constellation et Galaxie, bah, ça continue comme avant, hein, puisque depuis le mois de mars, on ne pouvait plus fonctionner. Le planétarium n'est pas du tout adapté à l'application des règles sanitaires. Et je pense que dans les écoles, il y a bien d'autres choses, bien d'autres problèmes à régler que de faire venir des intervenants comme nous. Et pour être plus précis ou plus complet, comme j'envisage ma mise en retraite très prochaine, en principe c'est pour le 1er janvier. L'association a décidé d'arrêter complètement ses activités. Et pour tout dire, lundi 23 novembre, là, il y a 2 jours, on a revendu la coupole gonflable à des collègues. Donc on n'a plus le matériel maintenant même pour le faire.
Voilà, c'est avec.
C'est
Oui,
un peu une
pardon.
page qui se tourne, quoi, dans mon
Voilà,
histoire professionnelle.
c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que, Michel, on connaît votre enthousiasme, mais c'est vrai qu'il doit y avoir quand même un petit pincement au cœur, parce que, je veux dire, la retraite, ça peut amener de nouveaux horizons, pardon, mais c'est vrai que dans ces conditions, c'est pas simple. Et puis, la vente, voilà, je pense que ça a dû mettre un petit coup au moral, non?
Bah, disons que jusqu'à présent, j'étais dans une forme de pré-retraite puisque les activités étaient suspendues, mais c'est vrai qu'avec la vente du matériel, disons, ça devient plus concret. Voilà, c'est sans retour, quoi. C'est clair. Mais bon, en astronomie, il y a toujours des choses à voir, à faire. Et je pense qu'au niveau de ma retraite, j'ai pas tellement de soucis à me faire sur les activités que je pourrais avoir.
Bon, mais c'est tant mieux, on est ravis. Alors, une fois de plus, Michel, merci. Alors, c'est vrai que là, on l'avait déjà réalisé de cette manière par Skype. Voilà, on est ravis néanmoins de vous retrouver. Alors, justement, pour commencer cette nouvelle chronique astro, en commençant par l'actualité, bien sûr, l'actu. Alors, est-ce que c'est fini pour le grand radiotélescope d'Arecibo, Michel?
Eh ben oui, nos auditeurs fidèles de la chronique se souviennent peut-être que j'avais évoqué en août dernier un accident survenu au grand radiotélescope d'Arecibo. Hein, il est bien connu du public car on a pu voir son site extraordinaire dans plusieurs films, notamment le James Bond GoldenEye de 95 avec Pierce Brosnan, où il sert de décor à la scène finale avec une bagarre spectaculaire de l'espion britannique dans la nacelle suspendue à 150 mètres au-dessus du sol. Mais on le voyait aussi dans le film Contact en 1997 avec Jodie Foster ou dans un épisode de la fameuse série X-Files. Son attrait vient de son architecture spectaculaire avec sa gigantesque coupole de 305 mètres de diamètre installée dans une dépression naturelle de l'île de Porto Rico, surplombée par une énorme nacelle de 900 tonnes contenant les détecteurs suspendus 150 mètres plus haut par 18 câbles supportés par trois grands mâts de 80 à 110 mètres de haut. Le 10 août dernier, c'est justement un de ces câbles de 7 cm de diamètre qui s'est brusquement rompu et sa chute avait occasionné de gros dégâts à la coupole en arrachant 300 des 30 000 panneaux qui la composent. La NSF, National Science Foundation, hein, Fondation nationale pour la science en français, une structure privée américaine destinée à soutenir financièrement la recherche scientifique, qui gère cet équipement depuis son inauguration le 1er novembre 1963, cherchait alors comment réparer le radiotélescope pour le remettre en service. Malheureusement, le 6 novembre, un second câble s'est rompu, occasionnant de nouveaux dégâts. Cela semble confirmer le mauvais état de la structure, notamment ses câbles, après presque 60 ans de fonctionnement, et les experts consultés pour la réparation pensent qu'aucune intervention ne serait possible sans faire prendre de très gros risques aux ouvriers chargés des opérations. En conséquence, la NSF a décidé de mettre le radiotélescope définitivement hors service et de commencer son démantèlement. Donc fini les cascades de James Bond suspendues au-dessus de son énorme coupole. D'un point de vue plus sérieux et scientifique, je rappellerai que ce radiotélescope est longtemps resté le plus grand du monde, jusqu'en juillet 2016, lorsque la Chine a mis en service le FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, d'une structure analogue à Arecibo, mais comme son nom l'indique, d'un diamètre de 500 mètres. Parmi les découvertes importantes faites grâce à Arecibo, il y a eu dès 1964, c'est-à-dire moins d'un an après son inauguration, la détermination de la période de révolution de la planète Mercure, 59 jours et non pas 88 jours, c'est-à-dire synchrone avec sa révolution autour du Soleil comme on le pensait jusque-là. Ou en août 1989, la réalisation de la première image d'un astéroïde. Il avait aussi été utilisé dans le cadre du programme SETI, visant à essayer de communiquer avec d'éventuelles civilisations extraterrestres, par exemple en envoyant un message vers d'autres étoiles en 1974, d'où son utilisation dans le film Contact, dont c'était le thème. Et ces dernières années, c'était la seule antenne, vu sa taille, à pouvoir encore communiquer avec les sondes Voyager, envoyées au début des années 80 pour visiter les grosses planètes extérieures du système solaire, de Jupiter à Neptune, et qui arrive maintenant aux confins du système solaire, là où l'influence de notre étoile se heurte à celle de ses voisines, à environ 22 milliards de kilomètres de nous. On comprend donc que la fin du radiotélescope d'Arecibo marque une grande perte dans le domaine de l'astronomie.
Et en même temps, d'autres pertes avec un lancement de fusées ratées.
Effectivement, cet accident a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre lors du tir d'une fusée Vega par la société Arianespace. On la connaît surtout pour la fameuse Ariane, mais il faut savoir qu'elle développe et exploite aussi des lanceurs plus petits afin de pouvoir proposer des lancements moins coûteux. Pour prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas la peine de louer un semi-remorque pour déplacer un colis qui peut être transporté par un fourgon ou une simple camionnette. Donc, à côté de la grosse fusée Ariane 5, qui selon les configurations et la hauteur de l'orbite visée peut propulser des charges de 10 à 20 tonnes environ, il y a la petite Vega, si je peux dire, hein, car elle fait quand même dans les 30 mètres de haut, une fusée à poudre pour son premier étage, destinée à des charges de 300 kilos à 2 tonnes. Elle est construite par différents industriels européens sous la direction de la société italienne Avio, basée à Turin, car elle était à sa création en 1916 une entité du groupe Fiat sous le nom de, alors je ne garantis pas mon accent italien, Società Italiana Aviazione. C'est Avio qui réalise l'intégration de tous les étages sur la base de Kourou en Guyane, d'où sont effectués les lancements. Le premier tir de Vega a été réussi le 13 février 2012 et il n'y a eu aucun échec jusqu'au 15e tir, le 11 juillet 2019, où une défaillance après l'allumage du deuxième étage a conduit à la perte du satellite Falcon Eye-1 appartenant aux Émirats Arabes Unis. Après un nouveau tir réussi début septembre 2020, le 16 novembre, c'est lors de l'allumage du quatrième étage que la fusée a dévié de sa trajectoire environ 8 minutes après le décollage. L'accident occasionne cette fois la perte de deux satellites que transportait Vega, Ceosat Ingenio, le premier satellite espagnol d'observation de la Terre, et surtout Taranis, un satellite de télédétection du CNES français, hein, le Centre national des études spatiales, qui était destiné à l'étude des phénomènes lumineux transitoires se produisant au-dessus des orages dans la haute atmosphère. Ils ont été découverts seulement dans les années 1990, notamment les Sprites, ou Farfadets en français, et autres ELF, car on baptise certains de ces éclairs brefs et puissants avec des noms imagés de la littérature fantastique anglo-saxonne. Tous ces phénomènes encore mal connus et très difficilement observables depuis le sol devront donc attendre encore avant qu'un satellite puisse les étudier, car même si les assurances rembourseront le coût des engins perdus lors de l'accident, il faudra des années pour remplacer ces équipements coûteux qui ne sont construits lentement qu'en un seul exemplaire. Taranis, un petit satellite de 200 kilos, avait été construit en une dizaine d'années depuis la décision de réaliser cette mission prise par le conseil d'administration du CNES en décembre 2010. Bien entendu, son nom avait été choisi par cet organisme français en référence au dieu du tonnerre des Celtes, qu'on peut aussi appeler des Gaulois, et bien connu des lecteurs d'Astérix, qui pour l'anecdote était aussi le nom du premier satellite lancé par la France en 1965.
Alors après ces mauvaises nouvelles, une réussite dans les vols spatiaux habités quand même.
Voilà, en effet, nos auditeurs ont sans doute entendu annoncer dans les médias la réussite du premier lancement de la capsule Crew Dragon de SpaceX, également le 16 novembre. S'ils suivent nos chroniques, ils ont peut-être été surpris d'apprendre que c'était une première, alors que j'ai déjà parlé ici d'un envoi réussi d'astronautes avec cette même capsule. Il n'y a pas d'erreur et cela mérite juste une petite précision. C'était le premier vol commercial de cette capsule, mais il avait été précédé de deux lancements au titre de la qualification de cet engin par la NASA. Le premier était le 2 mars 2019, et j'en avais parlé à l'époque. Par sécurité, c'est une capsule vide qui avait été envoyée vers l'ISS, la Station spatiale internationale, à laquelle elle s'était bien arrimée le lendemain, avant de s'en décrocher 5 jours plus tard pour un retour réussi sur Terre. Le deuxième essai avait eu lieu le 30 mai dernier et j'en avais parlé en juin, lors du retour de la chronique Astro, d'ailleurs, après plusieurs mois de suspension pendant le premier confinement, et comme aujourd'hui en distanciel, hein, comme on dit dans le nouveau jargon de la Covid. Cet événement avait donné lieu à un fort écho médiatique, notamment avec la présence du président Trump pour le tir, car c'était la première fois depuis presque 10 ans que des astronautes américains allaient partir vers l'ISS à bord d'une capsule américaine, et non d'un Soyouz russe, comme c'était le cas depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011. Mais ce vol habité ne comptait pas comme une vraie mission de la NASA, puisqu'il s'agissait encore d'un lancement de test, même si les deux astronautes ont bien aidé l'équipage à bord de l'ISS pendant le mois qu'ils y ont passé avec eux. Pour le premier lancement commercial de ce mois de novembre, baptisé Crew One, Crew Dragon transportait 4 astronautes, 3 Américains, dont une femme et un Japonais, je suppose pour démontrer la supériorité de cette nouvelle capsule sur le Soyouz qui n'en accueille que 3. Ils sont bien arrivés à l'ISS dès le lendemain et doivent y rester 6 mois. À noter que du coup, l'équipage de l'ISS comporte 7 astronautes, un record, car habituellement, il est de 3 à 6 astronautes au fil de la rotation des équipages de 3 amenés par les Soyouz. L'équipe Crew One doit revenir sur Terre en mars 2021 et celle du Soyouz arrivait le 20 octobre seulement au mois d'avril. Quelques petits rappels concernant le New Space, comme on l'appelle, c'est-à-dire la sous-traitance de missions humaines à des sociétés privées comme SpaceX. Pour baisser les coûts de ces lancements, le premier étage du lanceur, hein, qui s'appelle Falcon 9, est réutilisable et vient se reposer en douceur quelques minutes après le décollage sur une base flottante en Atlantique. Par ailleurs, il y a un autre concurrent privé sur ce marché des lancements vers l'ISS, Boeing, avec sa capsule CTS-100 Starliner, qui a malheureusement raté son premier tir à vide vers l'ISS en décembre 2019. Un nouveau test à vide devrait être tenté en ce mois de décembre 2020, avant peut-être un test habité en juin 2021.
Alors du coup, Michel, si j'ai bien compris, la capsule de SpaceX est la seule utilisable pour encore au moins 6 mois.
Oui, et il faut savoir qu'il y a aussi une version cargo de cette capsule pour procéder au ravitaillement en matériel de l'ISS. Une de ces opérations est prévue par la NASA pour la semaine prochaine, le 5 décembre exactement. Pour les missions habitées, le prochain lancement est prévu le 30 mars 2021, après le retour sur Terre de la mission actuelle. Et ce lancement concerne les Français, car Thomas Pesquet doit faire partie de cet équipage, donc de Crew Dragon, hein, avec 3 autres astronautes, 2 Américains et un Japonais. Pour son second séjour en orbite à bord de l'ISS, il devrait y rester de nouveau 6 mois, jusqu'en septembre 2021. J'ai noté que dans les interviews, il se dit souvent prêt pour s'engager dans une expédition lunaire quand il sera question de retourner sur la Lune, peut-être à partir de 2024, si le lanceur lourd SLS de la NASA fait ses preuves. Cette énorme fusée, aussi puissante que la Saturn V des missions Apollo des années 70, devrait être testée à partir de l'an prochain. À propos de l'installation sur la Lune, pour laquelle on imagine construire à terme une véritable base habitable pour des séjours de longue durée, de plusieurs semaines ou mois, j'ai lu dernièrement un article surprenant. Une équipe norvégienne qui travaille sur les matériaux utilisables suggère dans une publication récente l'emploi d'un ingrédient inattendu, à savoir l'urine des astronautes. En effet, comme le coût de transport depuis la surface terrestre est prohibitif, hein, de l'ordre de 20 000 euros le kilo, l'idée serait de produire sur place une sorte de béton en utilisant la roche lunaire ou régolithe, disponible en grande quantité, et de l'eau, beaucoup plus rare sur la Lune, même si on a détecté sa présence sous forme de glace. Mais pour produire un matériau assez fluide pour couler des bâtiments et en garantissant une certaine élasticité après le durcissement, afin que les parois ne soient pas trop cassantes, il faut compléter la recette avec des adjuvants. Et parmi ceux testés, il semble que l'urée, qu'on pourrait extraire de l'urine des astronautes, serait un bon candidat. Pour finir d'écœurer les auditeurs avec ces détails un peu scatologiques, je rappelle qu'à bord de l'ISS, l'urine est déjà recyclée pour alimenter l'équipage en eau, y compris pour les boissons et la réhydratation des rations alimentaires. Pour conclure ces actualités astronautiques de novembre, il ne faudrait pas oublier la Chine, qui a réussi lundi, le 23 novembre, le lancement par sa fusée Longue Marche 5 de sa nouvelle sonde lunaire Chang'e 5, qui devrait se poser en douceur sur notre satellite à la fin de la semaine. Cette mission est particulièrement ambitieuse, avec la collecte d'environ 2 kg d'échantillons lunaires, puis le retour sur Terre prévu en Mongolie le 15 décembre. Après les missions soviétiques Luna entre les années 1970 à 76 et les missions humaines américaines Apollo de 69 à 72, ce serait le premier retour de roches lunaires sur Terre depuis la dernière expédition Luna 24 en 1976, il y a plus de 40 ans. Et comme au-delà de la Lune, on vise beaucoup plus loin la planète Mars, je signale qu'à l'occasion de l'opposition du 14 octobre dernier, moment où la planète est la plus proche de nous, donc la plus grosse et la plus détaillée dans les télescopes, des Français se sont distingués en publiant deux images très réussies, réalisées avec des petits, si je peux dire, télescopes de 1 mètre de diamètre. La première, prise le 24 octobre depuis l'observatoire de Calerne, à 1250 mètres d'altitude dans les Alpes-Maritimes, site qui dépend de l'observatoire de la Côte d'Azur. La seconde, composée après 6 nuits de prise de vue entre le 8 octobre et le 1er novembre, depuis le télescope de 1 mètre de l'observatoire du Pic du Midi, qui avait d'ailleurs été utilisé dans les années 60 par la NASA pour préparer les missions lunaires Apollo, tant la qualité du ciel sur ce site situé à presque 3000 mètres d'altitude est exceptionnelle. On y avait réalisé, hein, si on s'en souvient, en direct 3 petites chroniques pour O2 Radio lors de mon séjour là-haut en août 2015. Et je dois dire qu'au fil de mes missions là-bas, j'y ai rencontré 3 des membres de l'équipe qui ont réalisé cette image époustouflante, révélant des détails de la surface qui n'étaient accessibles qu'à des télescopes beaucoup plus grands il y a encore quelques années. Elle a d'ailleurs eu les honneurs de l'APOD, Astronomy Picture of the Day, de la NASA, le 20 novembre dernier, où on peut la voir sous forme d'un planisphère, hein, c'est un site en ligne. Et les 2 images françaises de la planète rouge sont sur le site de la revue Ciel et Espace.
Allez, on est toujours avec Michel Favré, l'association Constellations et Galaxies. C'est sa nouvelle chronique astro en direct sur Audio Radio. Et là, Michel, vous allez aborder le sujet, le thème du mois. On reste dans l'actu, Noël et l'astronomie.
Alors, ça m'a semblé approprié d'évoquer aujourd'hui Noël, car c'est ma dernière chronique avant cette fête qui sera pile dans un mois. J'avais déjà parlé de ces aspects astronomiques en décembre 2014 puis en 2017. La dernière fois, c'était pour commenter la grande proximité de Noël, le 25 décembre, avec un événement astronomique annuel, le solstice d'hiver, jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord. En 2020, ce sera le 21 décembre, date la plus fréquente, malgré des petits décalages dus parfois aux années bissextiles, qui peuvent la faire fluctuer au 22 ou plus rarement 23 décembre. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, car beaucoup de fêtes chrétiennes dans le calendrier sont venues se substituer à des traditions plus anciennes, généralement liées au cycle solaire, parce qu'il était plus simple pour l'Église de recycler, si je peux dire, ces rendez-vous en changeant leur signification, plutôt que de les interdire et tenter d'imposer un nouveau calendrier de célébration. À titre d'illustration, je parlerai par exemple des feux de la Saint-Jean, qui eux sont calés sur le solstice d'été. Mais cette année, comme en 2014, je souhaite évoquer la fameuse étoile de Bethléem, car elle a un petit rapport avec l'actualité, comme nous le verrons. Noël est tout juste passé que l'Épiphanie, censée fêter la visite des fameux rois mages guidés par cette étoile mythique, approche avec sa populaire galette, donnant à chacun une chance de devenir roi pour un jour. En fait, d'après ce que j'ai lu sur Internet, cette tradition serait toute païenne et remonterait au Saturnal de la Rome antique, l'Épiphanie trouvant peut-être son origine dans une fête de la lumière, qui semble logique pour une étoile. Pour que les auditeurs ne soient pas déçus par cette chronique, je préfère les prévenir tout de suite que je ne dirai rien de définitif sur ce sujet controversé de l'étoile de Bethléem, mais que je veux juste évoquer cette question historique sous l'angle de l'astronomie, en examinant différentes hypothèses qui ont été formulées à son sujet. Pour une part, je me suis inspiré d'un article de Sébastien Beaucourt, paru en décembre 2014 dans l'Astronomie Magazine, une bonne revue destinée aux astronomes amateurs, mais malheureusement disparue depuis. Pour commencer, revenons à l'origine de cette histoire. La visite des rois mages est mentionnée dans le seul évangile de Matthieu, qui indique ceci. « Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus pour l'adorer. » Puis suit le récit de leur rencontre avec le roi Hérode, leur recherche du lieu de la naissance, guidée par la fameuse étoile, et leur arrivée à Bethléem où ils rencontrent le nouveau-né et sa mère, et laissent les fameux 3 présents, or, encens et myrrhe. Rien n'est dit sur l'identité de ces mages, à part qu'ils viennent d'Orient, donc de l'Est, ce qui est plutôt vague, car peut désigner plusieurs régions du Moyen-Orient, comme l'Arabie, la Perse ou la Mésopotamie. On interprète souvent leur qualité de mages comme indiquant des savants, donc probablement des astrologues, qui n'étaient pas différents d'astronomes dans l'Antiquité, faisant penser qu'ils pouvaient venir de Babylone, grand centre d'études du ciel à l'époque, et où l'astrologie jouait un grand rôle. C'est au IIe siècle que que le philosophe grec Origène fixe leur nombre à trois en raison des trois présents qu'ils transportent. C'est ensuite la tradition populaire qui a enjolivé leur histoire en les faisant des rois, puis en leur donnant des noms. Comme toujours avec les textes bibliques, il est délicat de leur donner une interprétation historique exacte, car on sait qu'ils ont été rédigés bien après les faits, qu'ils sont censés relater et qu'ils mêlent des événements peut-être réels avec des éléments mythiques ou symboliques. Pour la recherche d'un événement astronomique, la datation est délicate, car il n'y a pas de chronologie précise et la naissance du Christ le 25 décembre de l'an 1 est une convention ultérieure qui n'a pas de base historique certaine. Le 25 décembre a été choisi au 4e siècle pour christianiser les fêtes païennes du solstice d'hiver. Puis c'est en 532 qu'on décide d'instaurer l'ère chrétienne en comptant les années à partir de cette naissance. Le moine romain Denis le Petit, chargé de faire le calcul, la situa en l'an 753 après la fondation de Rome, qui est la référence du calendrier romain. Les recherches récentes semblent montrer qu'il s'est trompé, car à supposer que cet événement puisse être admis comme historiquement réel, sa date est probablement erronée de plusieurs années. En effet, l'évangile de Matthieu fait référence au roi Hérode, dont on sait par un historien romain qu'il est mort peu après une éclipse de lune qui s'est produite, on l'a recalculé depuis, en l'an 5 avant Jésus-Christ. Et si la naissance a eu lieu à Bethléem et non à Nazareth, où résidaient ses parents, c'est en raison d'une opération de recensement qui a été décrétée par Auguste en l'an 8 avant Jésus-Christ. Donc, certains astronomes se sont mis en chasse de phénomènes remarquables dans les années précédant le début de l'ère chrétienne, entre l'an 8 et l'an 5 avant Jésus-Christ.
Alors, quel phénomène astronomique, Michel, pourrait être cette étoile ?
Eh bien, c'est toute la question. Mais avant d'y répondre, il faut déjà tordre le cou à une idée erronée. On représente traditionnellement la fameuse étoile comme un lumignon fixé au-dessus de la nativité pour indiquer précisément le lieu au mage. Mais en raison de la rotation de la Terre et des mouvements des corps célestes, aucun phénomène astronomique ne peut correspondre avec cette conception. Pour être un repère géographique fixe pour un observateur terrestre, seule une sorte de phare miraculeux ou pour les plus excentriques un ovni en vol stationnaire au-dessus de Bethléem peuvent correspondre à cette idée de fixité par rapport au sol. Tout objet céleste, quel qu'il soit, ne peut être que mobile par rapport à un observateur terrestre. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le ciel un de ces soirs. En ce moment, dès le crépuscule, on a vers le sud-ouest un beau phare blanc et intense qui ferait une belle étoile de Noël. C'est la planète Jupiter, qui va lentement descendre vers l'ouest pour se coucher vers 21h ces jours-ci. À l'inverse, côté est, on verra en début de nuit noire, vers 18h30, trois étoiles bien alignées qu'on surnomme parfois les rois mages, justement, car elles apparaissent dans le ciel du soir à l'époque de Noël. Elles forment en réalité la ceinture de la silhouette humaine de la constellation d'Orion en train de se lever et qui dominera bien haute le ciel au sud vers 2h du matin. C'est l'effet direct de la rotation de la Terre, un tour d'ouest en est en 24h par rapport au Soleil, qui nous fait percevoir une rotation apparente inverse du ciel, d'est en ouest. Un peu comme les enfants sur un manège à la fête, ils voient tout l'environnement tourner autour d'eux alors que ce sont eux qui sont en rotation avec le manège. Donc tout phénomène ou corps dans l'espace sera animé de ce mouvement apparent qui le fera changer constamment de position par rapport à un observateur terrestre et même aux latitudes comme celle de la France ou de la Palestine ne le laissera visible que quelques heures dans le ciel chaque jour. Un objet céleste ne peut donc pas indiquer une direction précise et encore moins un lieu précis sur Terre. Et si l'observation se poursuit sur plusieurs jours, qui est probable pour ces mages qui semblent avoir voyagé longtemps avant d'atteindre la Palestine, ça peut être encore plus compliqué. Tous les corps du système solaire, les cinq planètes visibles à l'œil nu, le Soleil et la Lune, considérés à l'époque aussi comme des planètes, se déplacent lentement par rapport aux étoiles de l'ouest vers l'est, et les comètes aussi, mais dans un sens qui varie selon leur trajectoire. Ces mouvements apparents dans le ciel sont le résultat de la révolution en un an de la Terre autour du Soleil, de la révolution de la Lune autour de la Terre en environ un mois, et pour les autres corps de la combinaison de leur révolution autour du Soleil avec celle de la Terre. Donc pour notre étoile de Bethléem, les astronomes ne cherchent en aucun cas un repère fixe dans le ciel, car ça n'existe pas, mais plutôt un phénomène remarquable qui aurait pu guider les mages ayant interprété l'événement céleste d'un point de vue astrologique. Et il ne s'agit pas forcément d'un objet très brillant, évident même pour des non-astronomes, car l'évangile précise que Hérode sentit auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, donc ça ne devait pas sauter aux yeux. Pour ce genre de phénomène inhabituel, on a trois candidats possibles, une comète, une supernova ou une conjonction planétaire exceptionnelle.
Et on peut préciser qu'on trouve quelque chose dans la perte voulue, hein, Michel.
Oui, alors pour la comète, cette hypothèse nous est surtout suggérée par le célèbre tableau, du peintre italien Giotto, qui en a représenté une au-dessus de sa nativité, mais c'est parce qu'il avait été impressionné en observant lui-même en 1301 le passage de la comète de Halley, qui n'avait pas ce nom à l'époque. D'ailleurs, on continue souvent à placer au-dessus de la crèche ou du sapin une étoile avec une queue qui peut évoquer une comète. Cette explication tient assez mal car une comète est un astre diffus qui correspond assez peu au terme étoile. Les plus brillantes ont des queues très étendues et sont évidentes pour tout à chacun, comme celles que nous avons pu observer cet été, ce qui ne semble pas coller avec l'évangile. Il peut cependant y avoir une ambiguïté due à la traduction car « nous avons vu son étoile en Orient » pourrait aussi signifier « nous avons vu se lever son étoile », ce qui pourrait mieux correspondre avec le lent déplacement d'une comète. En tout cas, parmi les comètes périodiques que nous connaissons, c'est-à-dire qui repassent régulièrement dans le ciel, comme celle de Halley tous les 76 ans, aucune ne semble correspondre, même si cette théorie de la comète a été reprise dans un livre publié à Londres en septembre 2015 par un docteur en théologie. Elle se base sur l'observation par des astronomes chinois d'une comète visible 70 jours en mars-avril de l'an 5 avant Jésus-Christ, donc dans la période recherchée. Mais elle était située dans la constellation du Capricorne, qui au printemps se lève très tard le matin, donc vers l'horizon est. Et ça me semble contradictoire avec la provenance d'images d'Orient, donc de l'Est, qui aurait plutôt suivi un signe indiquant l'Ouest pour aboutir en Palestine.
Et la supernova, ça correspondrait mieux à une étoile, non ?
Oui, oui. Effectivement, je rappelle à nos auditeurs qu'une supernova est l'explosion d'une étoile très massive à la fin de sa vie, ce qui lui donne subitement un éclat impressionnant, parfois visible en plein jour, comme celle de 1054, là où auparavant aucune étoile n'était visible. Dans une moindre mesure, une simple nova, c'est-à-dire une nouvelle étoile en latin en fait, est aussi une étoile qui devient brusquement plus brillante. La candidate la plus sérieuse aurait été observée par les Chinois en l'an 5 avant Jésus-Christ, mais en fait, il y a peut-être une confusion avec la comète que je viens de mentionner. J'ai parlé de cette hypothèse parce que, comme je suis amateur de romans de science-fiction, je dois signaler que l'auteur américain Arthur C. Clarke, hein, celui très célèbre de 2001, l'Odyssée de l'espace, a publié en 1955 une nouvelle intitulée « L'étoile », « The Star » en anglais, évoquant cette fameuse étoile de Bethléem comme une supernova. C'est un texte que j'aime beaucoup car il met en scène un scientifique jésuite embarqué dans une mission spatiale et dont la foi vacille au vu des découvertes faites et du rapprochement avec la fameuse histoire des mages. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas divulgâcher, comme on dit, l'histoire pour les éditeurs qui voudraient la lire.
Voilà, je ne connaissais pas le mot divulgâcher, hein, Michel.
Là, il paraît que c'est le français pour spoiler.
Hein, c'est peut-être plus spoiler, tout à fait. Oui, mais après, voilà, les néologismes sont dans la langue courante.
Je crois que ça nous vient de nos cousins canadiens, hein, qui sont assez inventifs pour supprimer les mots anglais de leur vocabulaire.
Voilà, c'est très pédagogique cette émission à tous les niveaux. Alors, toujours dans le cadre voilà, de votre sujet, de votre chronique astro, alors parlez-nous du fait qu'il reste donc la conjonction planétaire.
Oui, alors cet événement correspond au rapprochement apparent dans le ciel de deux planètes ou plus, parfois au point de se confondre à l'œil nu, et me paraît plus conforme au texte biblique, car c'est typiquement une observation qui n'est pas forcément évidente pour tout un chacun, mais ne peut pas être ignorée d'astrologues dont l'occupation principale est l'interprétation du mouvement des planètes devant les constellations du zodiaque. Et cette hypothèse a un supporteur de poids, car il ne s'agit pas moins que de l'astronome Johannes Kepler, à qui on doit les fameuses trois lois du mouvement des planètes autour du Soleil. Ayant lui-même observé une conjonction triple de Mercure, Jupiter et Saturne la veille du Noël 1603, il a eu l'idée de vérifier si une conjonction rare du même genre n'aurait pas pu se produire à l'époque de la naissance supposée du Christ. Et il trouve en l'an 7 avant Jésus-Christ une conjonction spectaculaire de Jupiter et Saturne, car par le jeu de leurs mouvements respectifs, elles se sont rapprochées à trois reprises en quelques mois. Le 29 mai, que Kepler interprète comme le départ des mages pour leur voyage, puis le 6 octobre, qu'il suppose être leur arrivée à Jérusalem, et encore le 1er décembre, ce qui leur aurait indiqué la direction de Bethléem pour leur dernier déplacement. Cela semble presque trop beau, mais il faut relativiser sur plusieurs points. Ces conjonctions, bien que serrées, moins de 1 degré, hein, c'est-à-dire moins que la largeur d'un doigt à bras tendu, ne l'étaient pas assez pour que les deux planètes se confondent à l'œil nu dans le ciel, donc pas un phénomène très spectaculaire. En plus, le ballet des deux planètes s'est déroulé dans la constellation des Poissons, qui en mai est visible plutôt du côté de l'est, tard dans la nuit, donc le même problème de direction que j'évoquais tout à l'heure pour la comète. Et à l'inverse, en décembre, on la voit plutôt vers l'ouest et seulement en début de nuit. Mais cela ne correspond pas à la bonne direction si on doit se rendre de Jérusalem à Bethléem, qui est situé plutôt au sud. Et surtout, les conjonctions sont des événements tout à fait prévisibles pour des astronomes ou astrologues. Et même si cette triple était assez exceptionnelle, elle n'avait sans doute pas pour eux un caractère tellement extraordinaire au point de les faire entreprendre un long voyage. De ce point de vue, une comète ou une nova qui surgisse brusquement dans le ciel sans signe avant-coureur serait un phénomène astronomique plus plausible. En conclusion, on ne sait toujours rien dire de sérieux et d'indiscutable à propos de cette fameuse étoile de Bethléem, à part qu'elle réapparaît un peu partout dans le monde chaque année vers le solstice d'hiver au-dessus des crèches et des sapins.
Alors précisez-nous, vous nous aviez dit qu'il y avait un rapport avec l'actualité, Michel.
Alors effectivement, j'ai dit qu'en regardant vers le sud-ouest, en ce moment, on apercevait la très brillante Jupiter le soir. Mais si l'on fait attention, il y a à sa gauche, actuellement à la distance d'environ la largeur de 3 doigts, bras tendus, un autre point lumineux, plus lumineux que les étoiles et légèrement jaunâtre. C'est Saturne. Et par le jeu de leurs mouvements apparents, Jupiter se rapproche de Saturne jour après jour jusqu'à une conjonction qui aura lieu le 21 décembre, au solstice d'hiver, hein, c'est un hasard, et juste un peu avant Noël, où elles seront si proches qu'elles paraîtront confondues dans le ciel si on les observe à l'œil nu. Ce sera d'ailleurs exactement la vision qu'on aura, car Jupiter, bien plus éclatante, masquera Saturne plus pâle. Il me semble que cette conjonction très serrée, se produisant aussi près de Noël, a un petit côté retour de l'étoile de Bethléem, plutôt réjouissant en cette année 2020 très morose, même si en tant qu'astronome, je n'y vois aucun signe magique, ni aucun augure, hein, contrairement aux astrologues ou aux fameux rois mages.
Allez, on est toujours en direct, c'est notre chronique astro, voilà, avec Michel Favré qui réalise cette chronique. Et là, Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, hein, parce qu'il existe toujours, même si l'association risque de s'arrêter, donc www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes correspondantes et avoir plus de détails. Hein. Ce n'est pas évident de parler de cartes du ciel à la radio. Pour décembre, je pense que je la mettrai à jour d'ici la fin de la semaine. Depuis le passage à l'heure d'hiver, la nuit arrive bien plus tôt, avec ces jours-ci un soleil qui se couche vers 17h20 et la nuit noire qui arrive vers 18h30. Et ça restera sensiblement identique jusqu'au solstice d'hiver, le 21 décembre, car les jours raccourcissent surtout par un lever de plus en plus tardif, nous faisant perdre encore une demi-heure de journée d'ici là, avant de regagner un gros quart d'heure à la fin décembre. Malgré l'approche de l'hiver, c'est toujours le ciel typique de l'automne qui se montre en début de nuit, avec sa constellation vedette, Pégase, bien reconnaissable à son grand carré pratiquement vide d'étoiles, arrivant presque au sud vers 19h, en chassant, si je peux dire, le reste du ciel de l'été parti se coucher vers l'ouest, avec encore une portion de la Voie lactée se dressant presque verticale dans le ciel. Fin décembre, à la même heure, c'est Pégase qui aura commencé à basculer vers l'ouest et Orion, typique du ciel de l'hiver, qui se lèvera à l'est, avec ses fameux rois mages, les 3 étoiles formant sa ceinture. Comme je l'ai déjà dit en octobre, le ciel d'automne, étant en grande partie dégagé de la Voie lactée qui nous masque les objets lointains, c'est une des périodes favorables avec le printemps pour observer des galaxies, notamment la plus grosse d'entre elles, car la plus proche, la grande galaxie d'Andromède, située dans cette constellation qui prolonge Pégase vers l'est. C'est l'objet le plus lointain, visible à l'œil nu dans le ciel, à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et il forme comme une petite tache floue ovale qu'on distingue encore mieux dans une paire de jumelles. Avec une carte du ciel, elle est assez facile à trouver. Côté planète, on peut facilement admirer Mars à la couleur nettement orangée, immanquable au sud-est en début de nuit, car encore bien brillant, même si son éclat diminue progressivement depuis l'opposition de la mi-octobre. Fin décembre, elle sera presque au sud à la même heure. Mais comme je l'ai déjà indiqué, il y a quelques minutes dans l'évocation de l'étoile de Bethléem, c'est le balai de Jupiter et Saturne vers l'ouest qu'il serait intéressant d'observer jour après jour avec le rapprochement progressif de ces deux planètes jusqu'à leur conjonction très serrée du 21 décembre. Malheureusement, à cette date, le duo sera assez bas, seulement 10 degrés au-dessus de l'horizon en début de nuit noire, soit la largeur d'une main bras tendu, et se couchera assez tôt vers 19h45. Pour être complet, sur les planètes, il faut évoquer aussi la très brillante Vénus, encore observable le matin jusque dans les lueurs de l'aube, mais qui apparaît de plus en plus tard. vers 5 h 30 en ce moment, mais ce sera seulement 7 h fin décembre, soit une demi-heure avant le début de l'aube. Comme chaque mois, ces planètes visibles produisent quelques conjonctions avec la Lune, en commençant par ce soir, où la Lune gibbeuse sera assez proche de Mars, environ la largeur de trois doigts bras tendus. Il faudra ensuite patienter jusqu'au samedi 12 décembre pour voir un fin croissant de Lune dominer Vénus dans les lueurs de l'aube, et le lendemain, la situation inverse avec Vénus au-dessus d'un très fin croissant, pardon, difficile à distinguer car assez bas sur l'horizon sud-est. Le jeudi 17 au soir, le croissant de Lune s'approchera du duo Jupiter-Saturne, peu avant leur conjonction du 21. Ils ne seront déjà plus écartés que de 1,5 degré, soit beaucoup moins que la largeur d'un doigt à bras tendu, pour finir par se confondre le 21 avec moins de 1 dixième de degré entre eux, ce qu'on pourra essayer de voir aux jumelles si la météo le permet. Enfin, le mercredi 23 décembre, la Lune gibbeuse rejoindra de nouveau Mars dans le ciel. Et voilà pour décembre, qui viendra achever une année très particulière, hein. La prochaine chronique pourrait être le mercredi 30, à moins qu'on ne la retarde jusqu'au 6 janvier. Dans tous les cas, celle-ci aura été la dernière avant les fêtes de Noël, que je souhaite joyeuse à tous nos auditeurs et leurs familles, ainsi qu'à toute l'équipe de Haute Radio, même si on sait bien qu'avec le contexte sanitaire actuel, elles ne pourront pas se dérouler tout à fait comme d'habitude.
Et oui, Michel, effectivement, voilà, c'est une année bien singulière. Alors, Michel, du coup, ben, on verra, hein, on va échanger pour voir si la prochaine chronique à Astro aura lieu le mercredi 30 ou si on reporte au 6 janvier. On verra ensemble, hein, hors antenne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Michel, de mieux, voilà, pour cette dernière peut-être chronique de l'année et pour la suite?
Ça va être assez compliqué parce que j'ai mes enfants qui sont soit sur Paris, soit pour des raisons médicales, mais qui n'ont rien à voir avec le Covid, sur Grenoble. Ce sera peut-être pas évident d'aller les voir en période de fête. Mais je tiens à préciser que malgré ma prochaine mise en retraite, comme l'astronomie n'est pas prête de me lâcher, je ne lâcherai pas non plus la chronique tant que O2 Radio sera d'accord pour la diffuser. Et qu'on aura sans doute encore d'autres rendez-vous mensuels dans les mois qui viennent.
Oui, avec plaisir. Et vous avez vu, on sait s'adapter, hein, là, avec cette période. Voilà, je vous vois, Michel, c'est particulier cette chronique. Je vous ai pas en présentiel, mais là, avec Skype, voilà, je vois à mes côtés. Oh, Michel, on va voir un autre invité d'ici quelques instants. Donc, vraiment encore merci, hein, pour tout ce travail, toute cette passion que vous venez partager sur notre antenne. Donc, on verra si la chronique aura lieu le 30 décembre ou en janvier. En tout cas, merci beaucoup. À très vite. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces chroniques. Voilà, c'était la numéro 69. Sur le site constellationsetgalaxies.org.
Voilà, dans la page astronomie.
Allez,
Dans le
merci
menu
beaucoup.
astronomie, la page chronique O2 Radio, et il y a tout l'historique et une petite description de chaque chronique, ce qui fait que si les auditeurs cherchent un sujet particulier, ils pourraient peut-être le retrouver plus facilement comme ça.
Très bien, puis on va repartager par les réseaux sociaux. Allez, Michel, portez-vous bien, on vous souhaite de belles fêtes, et on se retrouve soit à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, mais en tout cas, à très vite, et encore merci pour tout ce travail empreint de, bien sûr, de passion, d'enthousiasme. À très vite, Michel.